quelle valeur accordez-vous à la musique et est-ce que la musique a de la valeur pour vous? En fait, ma question, c'est plus, est-ce que vous payez toujours pour avoir accès à un album ou à une chanson qui vous appartient, qui est à vous? Ou bien est-ce que vous utilisez d'autres services en ligne comme le streaming? Ou est-ce que tout simplement vous, accédez à de la musique de façon totalement illégale? Il faut dire que là-dessus, moi, je suis un peu vieux jeu. J'ai rarement copié de la musique illégalement et dans tous les cas, c'était pour écouter avant d'acheter, donc avoir une idée de l'album complet avant, après ça, de procéder à l'achat. Parce que j'aime encourager les artistes, mais j'aime aussi avoir de la qualité. Et malheureusement, à une certaine époque, les fichiers audio qui étaient disponibles en partage étaient de très mauvaise qualité. Les modèles technologiques évoluent beaucoup plus rapidement en ce moment que les modèles d'affaires. La rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous parce qu'on met de l'avant des solutions technologiques sans nécessairement penser à l'avance au modèle d'affaires. Et dans bien des cas, les gens, les acteurs de l'industrie de la musique ne voient souvent qu'un seul côté de la médaille avant de prendre une décision et d'aller de l'avant, ce qui cause parfois bien du tort aux artistes puis bien du tort à l'industrie en général au niveau financier. Et ma question pour vous, c'est comment consommez-vous de la musique? Est-ce que vous écoutez des albums de la même façon qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans? Et surtout, est-ce que vous écoutez un album d'un bout à l'autre dans l'ordre de la façon qui a été conçue pour être mis dans vos oreilles? Mon nom est Sylvain Grandmaison. Vous écoutez Le Québec en balado-diffusion.
I am trying to be realistic here. I am dying, cause I know I can't resist it. We're gonna be so sorry soon. I can't keep my hands off you. And I don't want to. If we're careful, maybe this could be alright. But you are caffeine, and I'm staying up all night. I'm not stupid enough to believe that I could just kiss you and leave. There will be prices to pay. Just wanna touch you.
Oui, les modèles d'affaires en musique se transforment constamment. Et si vous remarquez, c'est jamais la solution ou l'évolution vient jamais ou rarement de l'industrie elle-même. Pendant plusieurs années, depuis les années 1880, le modèle d'affaires n'a pas changé. Le modèle d'affaires de la musique avec un producteur et un distributeur justement les gens qui font le plus de sous étaient justement les producteurs et les distributeurs et non les artistes et non nécessairement les magasins qui vendaient ces albums-là. Ce modèle-là est inventé par Thomas Edison. Thomas Edison qui a inventé le phonographe, donc enregistré de la musique sur un rouleau de cire. Et il y avait un réseau de distribution, justement, avec bon, des gens qui vendaient les phonographes, tout ça, puis qui vendaient les rouleaux en question. Et ce modèle-là n'a jamais changé par la suite, ou à peu près pas, aller jusqu'à l'invention du CD et après ça, ben de l'Internet. Parce qu'avant l'apparition de l'Internet, il y avait de la copie qui se faisait, mais c'était sur des ordinateurs en mode local. On copiait sur un autre CD. Et donc, ça se faisait de façon plus artisanale et plus limitée. Un peu comme auparavant, dans les années 80, on copiait les cassettes. Et un peu auparavant aussi, on copiait les vinyles sur des cassettes. Donc, c'était relativement marginal. Et ben oui, avec l'apparition de l'Internet, ce qui est arrivé, c'est qu'on pouvait partager avec d'autres gens. Ça a été encore marginal au départ jusqu'à temps qu'arrivent des plateformes de partage comme Napster. Puis vous voyez, l'Internet est arrivé et l'industrie de la musique n'a pas essayé justement de se transformer, de vendre ses produits. En fait, ce qu'ils essayaient, c'est de vendre des CD physiques sur Internet pour aller les envoyer par la poste aux gens. La solution est venue justement avec les lecteurs MP3. Mais, et même avec les lecteurs MP3, c'est pas les acteurs qui vendaient la musique. Par la suite, ça a pris un gars comme Steve Jobs pour mettre tous ces gens-là autour de la table puis développer une solution comme iTunes. Une solution qui a été grandement critiquée au départ parce qu'on dématérialisait l'album. Même s'il était, dans un sens, déjà dématérialisé, on pouvait prendre le CD, le transférer sur iTunes puis l'écouter là, mais il était dématérialisé dans le sens que chaque chanson pouvait être achetée individuellement. Donc, c'était plus une expérience complète d'écouter un album. C'était plus une obligation non plus d'acheter tous les titres. On pouvait acheter à la pièce. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une certaine perte de revenus au départ. C'est sûr que l'Internet aussi a rentré dans le cadre de l'industrie de la musique au départ parce que pendant un certain temps, il y avait des plateformes qui permettaient le partage entre les gens et il y a bien des gens qui n'achetaient plus de musique. Sauf qu'il y a eu un retour du balancier suite à iTunes, évidemment, parce que c'était devenu tellement facile d'acheter des chansons, plutôt que le trouble d'aller chercher sur les torrents ou sur les autres plateformes comme Napster et compagnie, et obtenir des fois des chansons dans une qualité médiocre. Donc, c'est devenu facile avec iTunes. Il y a eu un problème qui est arrivé. Évidemment, l'industrie de la musique pensait ou espérait aller chercher d'autres revenus et pensait que les services de musique en streaming seraient salutaires, justement, pour eux. Et ils se sont trompés. En fait, le modèle est intéressant. Le problème, c'est la redistribution de cet argent-là est tout à l'avantage du service et non des producteurs et encore moins de l'artiste. J'ai vu des chiffres qui disaient qu'un artiste dont la chanson a été streamée 1 million de fois reçoit quelque chose comme autour de 7-8 $. C'est minime, c'est tout petit. Donc, c'est pas du tout salutaire. Et non seulement ça, c'est que il va y avoir de moins en moins de ventes d'albums avec des services en streaming. Et ces services-là ne coûtent pas très cher, coûtent beaucoup moins cher que si on achetait autant d'albums qu'on écoute en ce moment. Donc, c'est un peu problématique. Puis ce problème-là, ben c'est un peu l'industrie de la musique elle-même qui en est responsable parce qu'ils ont accepté ce deal-là. C'est un très, très, très mauvais deal. Alors que, bon, oui, iTunes se prend 30%. Apple se prend 30% sur les chansons vendues sur iTunes, mais 70% reste quand même à l'industrie, reste à la compagnie qui produit, reste à l'artiste aussi. Donc, ce qui est plus le cas avec les chansons en streaming, on a une petite parcelle de ça. Donc, pour les musiciens, pour les chanteurs, pour les artistes, il y a en ce moment plus beaucoup d'argent à faire avec la musique. Ça devient plus une vitrine. Et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes parce que, évidemment, il y a moins de gens qui écoutent la radio aussi. Il y a moins de gens qui écoutent des émissions de variété sur la télé conventionnelle. On écoute beaucoup plus la télé sur Internet. Les séries, on les bouffe en rafale. Donc, on est moins à l'affût de ce qui se passe dans les médias en général. Donc, pour découvrir ces artistes-là, ça devient plus difficile, ou plutôt, les artistes ont plus de difficultés à se faire découvrir. Et en plus de ça, bien, ils ont moins de revenus de la musique. Donc, c'est un peu néfaste pour toute l'industrie de la musique, ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est un peu comme l'œuf ou la poule. Hein? Pour réussir à faire des sous en musique, il faut se faire découvrir. Puis pour se faire découvrir, bien, ça prend des plateformes, ça prend justement, de la radio traditionnelle, où ça prend quelque chose qui est extrêmement visionné, consulté, puis il y en a de moins en moins. Justement, la musique en streaming vient un peu tuer la radio, et pas seulement tuer des modèles comme iTunes ou autres modèles électroniques de vente de musique qui fonctionnaient, mais tue aussi un peu la radio. Donc, c'est un peu difficile. J'espère qu'il y aura des meilleurs jours pour la musique dans l'avenir. Mais si quelqu'un veut faire de la musique, l'argent, elle est où? L'argent est dans le spectacle, et dans les produits dérivés, tout ça. Mais encore une fois, comme je le dis, pour réussir à faire des spectacles, à attirer du monde, il faut se faire connaître. Puis pour se faire connaître, bien, il faut avoir de la visibilité. Et c'est cette visibilité-là qui est de plus en plus difficile à avoir dans le paysage médiatique en ce moment. Donc, j'espère de belles choses qui s'en viennent dans le futur, mais en ce moment, c'est un peu difficile. Je vais vous refaire jouer une chanson de Julianne Nunes. J'en ai-tu parlé tout à l'heure? Je ne suis pas sûr. Julianne Nunes, qui est une artiste qui est devenue très populaire sur le web à cause de YouTube. Donc, elle s'est faite découvrir par YouTube. C'est une des artistes les plus populaires sur YouTube, justement. Et elle a fait quelques albums grâce à des modèles de socio-financement. Donc, son dernier a été socio-financé l'été passé sur Kickstarter. Elle demandait 25 000 $ en socio-financement pour faire son album. Donc, en échange, ben, on pouvait avoir, comme moi, l'album, tout simplement. Il y a des éditions en vinyle. Et il y avait aussi des éditions spéciales avec un ukulélé, parce qu'elle joue du ukulélé. Elle est très connue pour ça. Et édition extrême, un ukulélé signé, signature, Julianne Nunes, tout ça. Donc, en faisant ça, elle a récolté 135 000 $ si ma mémoire est bonne. Donc, ça lui a donné la liberté créative de faire son album, l'album qu'elle voulait, de prendre le temps de bien le faire aussi, ce qui est un luxe en ce moment pour un artiste qui enregistre un album, avoir 135 000 $ pour produire ton album et pouvoir justement ne pas avoir à se soucier de courir après de l'argent pour vivre durant le temps qu'elle fait son album. Moi, je lui lève mon chapeau. En même temps, c'est le fruit d'années de travail. Ça fait des années qu'elle est sur YouTube, qu'elle produit des vidéos amusantes, intéressantes, qu'elle joue du ukulélé, tout ça. Donc, c'est pas arrivé non plus du jour au lendemain. Donc, je vous laisse avec une autre chanson qui s'appelle « Make Out » et je vous reparle tout de suite après.
shit to do. I know you do too. I won't let go of you till you push me away. The second you leave, I miss you. I could see you tomorrow, but I don't wanna wait. So kiss me in the doorway, always on your way out. I'm trying to make you stay so we can make out. Kiss me in the doorway, always on your way out. I'm trying to make you stay so we can make out. You're an open book, but I can't read you. Start the countdown till I lose it. 3, 2, 1, I'm done.
Chanson Make Out de Julia Nunes. Je vous parle de musique aujourd'hui parce que il y a un auditeur qui a envie de faire du podcasting qui posait la question comment se gèrent les droits de la musique sur les podcasts. Est-ce qu'on a le droit de faire jouer de la musique dans les podcasts sans demander permission, tout ça? Il faut dire que ça n'a pas évolué depuis 2008. Donc, il y a eu, oui, des rapports, par exemple, de la SOCAN, tout ça. Ce sont ceux qui s'occupent de gérer les droits au Canada pour la musique. Lorsque c'est joué, par exemple, à la radio ou des choses comme ça. Mais il n'y a rien qui a évolué. Donc, il y a eu aussi un rapport qui a été fait par des avocats spécialisés en droit d'auteur. Et tout ça date de 2008. Il y a absolument aucune évolution, mais en même temps, le podcasting, lui, a évolué beaucoup. Il faut dire qu'en 2008, ça faisait 4 ans que ça existait sous la forme qu'on connaît, plus ou moins. Et là, ça fait 7 ans et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, il y a des nouveaux services qui apparaissent. Pourtant, il y a des nouveaux modèles. Et même si le podcasting lui-même évolue, on ne fait pas évoluer ses droits-là. Quels sont ces droits-là? Bien, en réalité, ce qu'il fallait payer en 2008, si on voulait faire jouer une chanson sur un podcast une fois, c'est l'équivalent de 2 000. Et ça n'a pas changé, là. C'est toujours ça qui est en vigueur actuellement. Je connais personne qui fait ça. Je connais personne qui a déjà payé pour faire jouer de la musique dans son podcast. Pourquoi cette législation-là? Bien, à l'époque, le podcasting était disponible seulement en téléchargement. Donc, on voyait ça comme si le fichier, c'était la chanson elle-même qui était téléchargée et téléchargeable par Monsieur Tout-le-Monde. Donc, pour pouvoir donner le droit que la chanson soit distribuée comme ça dans un fichier, on demandait une somme astronomique. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réfléchi, donc, parce que c'est vraiment le B.A.B.A. c'est que oui, c'est un fichier, mais il n'y a personne qui prend ce fichier-là et qui fait en sorte que c'est un fichier où on peut extraire la chanson. La chanson, c'est pas la chanson qu'on distribue, elle est à l'intérieur d'un fichier. Et pour aller récupérer cette chanson-là à l'intérieur du fichier, il n'y a personne qui va se donner le trouble d'aller recouper le podcast puis aller isoler la piste parce qu'elle est tellement disponible partout sur Internet que ça serait une énorme perte de temps. Je vous disais que les modèles ont aussi évolué parce que maintenant, on a de la musique en streaming et le podcasting est consommé majoritairement aujourd'hui en streaming. Il y a de moins en moins de téléchargements. Si vous n'avez pas changé les préférences sur l'application podcast de votre iPhone ou sur la plupart des applications de podcasting de Android, ben vous écoutez vos podcasts en streaming. Donc, ce n'est plus un fichier qui est téléchargé, qui est résident. Donc, ça n'a pas nécessairement la même valeur marchande. Donc, il y a ça d'un côté, donc les droits en tant que tels. Si on applique à la lettre le droit d'auteur, oui, il faudrait payer ce montant-là, mais aussi, j'aurais le droit, par exemple, sans payer, de faire jouer un extrait. Ce qui est considéré comme un extrait, généralement, c'est autour de 30 secondes. Donc, faire jouer 30 secondes d'une chanson à l'intérieur de mon podcast serait accepté. Sauf que, encore une fois, je ne connais personne qui fait jouer seulement des extraits. Sinon, comment contourner ça ou comment justement être « legit », comme on dit? Bien, c'est de demander la permission. Donc, de demander la permission à qui? C'est là que c'est complexe. L'artiste n'a pas le droit lui-même de dire juste « je te donne la permission de mettre ma chanson sur ton podcast » parce que les droits ne lui appartiennent pas entièrement. Généralement, il y a une maison de production en arrière de ça et il y a une partie des droits qui appartiennent à la maison de production aussi. Donc, c'est souvent la maison de production qui doit donner le droit de jouer la musique sur un podcast. Je connais des gens qui le faisaient systématiquement à une certaine époque dans leur podcast de musique, de demander les droits pour chaque album qu'ils faisaient jouer. Sauf que c'est fastidieux. Contacter les maisons de musique, c'est parfois long parce qu'ils ne répondent pas tout de suite. C'est parfois difficile. Donc, si vous voulez être by the book, il faut le faire. On n'a pas le choix. Certaines personnes aussi, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils demandaient le droit complet au catalogue. Donc, ils faisaient une fois. Donc, on avait le droit, ils obtenaient le droit de faire jouer n'importe quel artiste de cette compagnie de musique-là. Donc, ça facilitait les choses. Sauf qu'il faut le faire pour chaque compagnie de production musicale. Donc, ça aussi, ça peut être quand même assez fastidieux, mais c'est la façon correcte de le faire. Par ailleurs, il y a aussi des maisons de disques qui communiquent avec les gens qui ont des podcasts musicaux ou des podcasts comme le mien pour faire jouer des albums ou faire la promotion de leurs artistes. Ça m'est déjà arrivé de faire jouer des artistes de qui j'avais reçu de la musique en promo, mais j'ai seulement fait jouer ceux qui m'intéressaient, pas les autres que je trouvais inintéressants. Donc, il y a ça aussi qui se produit, sauf qu'aujourd'hui, moi, je n'en reçois plus. Mais il y a quand même des gens qui produisent des podcasts de musique qui font jouer de la musique qui leur est donnée. Donc, ça fonctionne assez bien. Si vous fabriquez un podcast musical, si vous partez démarrer un podcast musical, vous allez recevoir inévitablement de la musique, des maisons de disques qui vont vous demander au contraire de faire jouer leur artiste. Donc, le podcasting a évolué et il faut faire évoluer aussi cette façon-là, cette législation-là, malheureusement. Et tout ça est extrêmement, extrêmement lourd. Donc, voilà pour ça. Ceci dit, moi, je ne m'empêche pas de faire jouer de la musique. Je ne demande jamais la permission. Pourquoi? Ben parce que si vous avez suivi tout ce qui s'est passé à l'époque où est-ce qu'on copiait de la musique, où est-ce qu'il y avait les Napster et tous les trucs de peer-to-peer, la législation canadienne fait en sorte que c'est très difficile d'accuser quelqu'un et de le poursuivre Pourquoi? Bien, parce que, oui, c'est illégal de copier de la musique qui ne nous appartient pas et, justement, pour la distribuer. Sauf que c'est légal de transférer un fichier électronique d'une personne à l'autre. Donc, ça a fait en sorte que jamais personne qui a eu une amende qui a été accusée et qui a payé une amende au Canada, sauf que c'est arrivé aux États-Unis. La législation est différente. Quoique, avec le temps, il y a beaucoup de ces accusations-là qui sont tombées. Il y avait une mère de famille qui n'avait pas de revenus, qui a été condamnée à 30 quelques mille dollars d'amende. Et finalement, ça a pris du temps, mais à un moment donné, ils ont laissé tomber parce que pourquoi accuser cette personne-là alors qu'il y a des millions de personnes qui l'ont fait à travers le monde? Et le problème n'était pas nécessairement la personne elle-même, plutôt que la plateforme qui permettait ces partages-là. Donc voilà pour ça. J'espère que ça fait un petit peu ça éclaircit un peu les choses par rapport aux droits de la musique dans les podcasts. Ceci dit, on pourrait avoir le point de vue que, tu fais, mettons, de l'argent avec ton podcast, tu devrais redonner aux artistes. Personnellement, je ne fais pas, il n'y a pas de publicité sur mon podcast. Me faire du podcasting me coûte des sous. En réalité, j'ai des Google Ads et je dois approcher d'un troisième chèque de 100 $ et ça sur une période de 10 ans. Alors que mon podcast me coûte, le nom de domaine, 15-20 $ l'hébergement de mon site, environ 130 $ l'hébergement de mes fichiers audio et de la plateforme qui me donne mes statistiques de téléchargement, ça me coûte environ 150 $ Donc, grosso modo, moi, ça me coûte au moins 300 $ par année faire ce hobby-là. Et j'ai eu même pas encore 300 $ de revenus sur 10 ans. Donc, je pourrais pas beaucoup partager quoi que ce soit au niveau revenu. Sauf que de l'autre côté, j'ai des témoignages de plein de gens qui, au fil du temps, ont au contraire acheté les albums que j'ai fait jouer sur mon podcast. Donc, si Julia Nunes vous intéresse, si vous avez aimé ça, je vous conseille d'aller acheter son album. Environ 10 $ évidemment, puis ça encourage une artiste indépendante qui n'est associée absolument à aucun label et qui réussit à bien tirer son épingle du jeu. Avant de vous laisser, je voulais vous dire que il y a certaines personnes qui sont allées à ma demande sur iTunes. Vous êtes allé mettre quelques petites étoiles pour montrer que vous appréciez mon podcast et j'ai vu des légers changements dans les répertoire d'iTunes, donc ça aide beaucoup. Donc, je vous le demande encore une fois, ceux qui ne l'ont pas fait, vous êtes plusieurs, vous êtes des centaines, allez dans iTunes ou dans l'application podcast ou dans votre application favorite de podcasting sur Android et allez dans le répertoire, cherchez pour Québec, vous allez trouver dans les balados, le Québec en balado diffusion va sortir tout de suite dans les premiers, allez dessus. Ajoutez des étoiles, ajoutez des commentaires, s'il vous plaît, ça aide énormément. Et honnêtement, vous le savez, je ne suis pas payé pour ça. Au contraire, je dépense de l'argent pour fabriquer ce podcast-là. C'est mon salaire. Donc, si vous voulez me redonner un petit peu de ce que je vous donne, allez ajouter des étoiles et des commentaires dans iTunes. La prochaine épisode, je vais vous donner une autre mission, justement, pour aider à mon podcast. Donc, je vous laisse avec une dernière chanson de Julia Nunes qui s'appelle I Don't Want To. Et je vous dis à très bientôt pour un autre Québec en balado-diffusion. Ciao!
should.